10h22 minutes dans le point de Max à Boulevard 102.1. 88-971-101 si vous voulez m'écrire en studio. Je prends toujours le temps de vous lire. Je vous réponds pas toujours. Là. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Mais sachez que je lis chacun de vos messages avec un immense plaisir. On en fait quasiment une tradition depuis quelques semaines de se parler les lundis parce qu'il se passe bien des affaires à l'international au courant de la fin de semaine. Fait qu'on fait un petit récapitulatif de tout ça. Puis je pense que ce matin, Georges Mercier, analyste politique, aura bien des choses à dire sur ce qui s'est passé sur du côté de l'Iran en fin de semaine, sur Donald Trump, qui est peut-être en train de réaliser certaines affaires. On va y venir là, durant la discussion. Georges Mercier, un gros bonjour.
Salut Max.
Donald Trump qui a demandé samedi notamment à la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et plus généralement d'autres membres aussi de l'OTAN là, d'intervenir, d'envoyer des navires pour aider à garder le détroit d'Ormuz ouvert. Est-ce qu'il s'est rendu compte un peu sur le tard qu'il allait avoir besoin d'aide ou c'est juste stratégique à ce moment-ci de Donald Trump de lancer cette demande d'aide-là? Qu'est-ce qui fait que c'est venu en fin de semaine?
Je pense que si on fait la petite histoire, les Américains sont entrés en Iran avec des bombes et des avions en pensant que ce serait court. Et là, on rentre dans la troisième semaine du conflit. Ce n'est pas court. Et les Américains ont détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs militaires en Iran. Ils n'ont pas réussi pour l'instant à faire provoquer un changement de régime. On a un régime qui est tout aussi déterminé du côté iranien à être une nuisance pour les États-Unis et à résister. Et ce régime-là a mis en exécution une menace, dont il menaçait depuis très longtemps, c'est de fermer ce détroit de Hormuz-là où transitait, parce que désormais on parle en imparfait, où transitait 20 % du pétrole mondial. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que les Américains n'avaient pas pris au sérieux cette menace-là. Je pense que du côté de la Maison-Blanche, on ne pensait vraiment pas que les Iraniens allaient faire ça, parce que ça aurait pu avoir des impacts sur leur propre capacité à eux d'exporter du pétrole. Donc, on se disait, ils ne sont pas irrationnels économiquement, ils ne vont pas se tirer eux-mêmes dans le pied, donc ils ne fermeraient pas le détroit. Donc, on ne croyait pas que ça allait se faire. Et B, puisqu'on ne pensait pas que ça allait se faire, on n'avait pas de plan en place pour le rouvrir si les Iraniens mettaient leur menace à exécution. Et donc là, les Américains sont un peu en train d'improviser un plan pour permettre aux pétroliers des monarchies du Golfe de repasser par ce détroit-là. Et de quoi est-ce qu'ils se rendent compte en ce moment? Ben, ils peuvent probablement pas le faire seuls. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas le faire seuls? Pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être qu'ils n'ont pas les capacités au niveau des navires et de la marine pour le faire, parce que si on envoie un bateau escorter des pétroliers, c'est un bateau qui est pas utilisé pour frapper l'Iran au même moment. Un problème de capacité militaire. Deuxième problème, les pétroliers qui passent par là ne sont pas tous, en majorité, des navires américains. Donc, est-ce que les Américains veulent risquer leur propre navire, qui coûte une fortune, rappelons-le, pour escorter des pétroliers qui sont pas eux-mêmes américains? C'est une autre grande question. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est mutualiser le risque, en quelque sorte. Avoir une coalition internationale pour que si ça dérape, s'il y a des navires de guerre qui devaient couler, ben, ce ne sont pas seulement les navires américains, mais des navires européens, en l'occurrence. Et là, le gros problème ici, c'est que depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump a aimé faire cavalier seul en relations internationales. It's my way or the highway, en bon français. Et ses alliés historiques européens ne l'ont pas pris. Ça, t'sais, on peut rappeler la saga du Groenland au début de l'année, qui quand même avait été une vraie douche froide sur les Européens. Donc, ces alliés-là ne sont pas dans les meilleures dispositions pour aider le président. Et donc, pour l'instant, ils lui disent non. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer bien longtemps à lui dire non? C'est la grande question. Parce que les coûts de l'énergie, les coûts du pétrole, ils sont mondiaux. Et les Européens souffrent autant d'augmentation du prix du pétrole que les Américains, sinon plus, parce que les Européens sont dépendants d'importation. Donc aujourd'hui, on dit non. Mais si la situation se poursuit pour plusieurs jours, plusieurs semaines, et que les cours ne chutent pas, peut-être que les Européens n'auront pas le choix d'embarquer contre leur gré. Et là, c'est quoi le grand danger ici? C'est que si un navire français, par exemple, est coulé par une torpille ou par une mine iranienne, mais de facto, la France devient un belligérant dans ce conflit-là. Et donc, le conflit s'internationalise, puis on passe d'un conflit entre Israël et les États-Unis et l'Iran, entre Israël et les États-Unis, une coalition européenne et l'Iran, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Parce que là, pour l'instant, il y a entre autres l'Allemagne qui a été très claire là, en disant à Trump, cette guerre-là n'a rien à voir avec l'OTAN, c'est pas la guerre de l'OTAN. Pour l'instant, on en est là, mais ce que tu me dis, c'est que à un moment donné, peut-être que pour des raisons économiques, on va peut-être commencer à pencher plus vers « OK, où on va embarquer ».
Mais l'affaire, c'est que les Américains et les Israéliens ont enclenché un processus. Un processus qui, par définition, engage beaucoup, beaucoup d'autres États que eux. Lorsque les Américains ont frappé l'Iran, ils ont pris la chance de provoquer un choc pétrolier qui allait se répercuter sur tous les pays de la planète. Et ces pays-là, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne en l'occurrence, font face à des populations qui vont souffrir d'une hausse du coût de l'énergie. Puis éventuellement, si la hausse est trop longue, ils vont devoir y répondre. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils n'ont peut-être pas le choix de se joindre à cet effort de guerre-là, qu'ils le veuillent ou non aujourd'hui. Et une chose est certaine, les Européens n'ont pas été consultés avant que les frappes soient lancées et eux ne voulaient rien savoir de cette guerre-là. Élément intéressant ici, Max. Il y a un an, okay, il y a un an, lorsque les Américains n'avaient pas encore complètement retiré leur bille du conflit en Ukraine. Okay. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui fournissent le plus d'argent à l'Ukraine et qui achètent des armes américaines. Mais il y a un peu plus qu'un an, la situation était différente. Les États-Unis étaient un des principaux soutiens de l'Ukraine. Et tant qu'ils étaient ce principal soutien-là, les États-Unis avaient beaucoup de pouvoir sur les pays européens parce qu'ils étaient dépendants d'eux. Aujourd'hui que les Européens ont pris une forme d'indépendance ici, les Américains ne peuvent pas leur dire quelque chose du genre, je pense que c'est ce que Trump a en tête en ce moment, écoutez, si vous n'envoyez pas de navires à Hormuz, on cesse de soutenir l'Ukraine et vous avez d'abord et avant tout peur de la Russie. Donc, ce levier de négociation-là, on ne l'a pas. L'option nucléaire, en quelque sorte, pour Trump, ce serait de dire aux Européens, si vous n'envoyez pas vos navires, on refuse que vous continuiez à acheter des armes américaines pour défendre l'Ukraine, ce qui irait jouer dans ce qui ferait l'affaire pas mal de Vladimir Poutine. Et qu'on sent que les Européens, leur plus grande peur, c'est la Russie, non pas l'Iran. C'est le genre de menace qui pourrait peut-être fonctionner. Mais là, si on commence à faire des actions aussi coercitives, aussi musclées envers nos alliés, l'OTAN va avoir une douche très, 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 très froide. Déjà que ça va pas très bien à ce niveau-là.
Parlons-nous maintenant, qu'est-ce que Mark Carney doit faire, comment il doit se positionner dans tout ça? Parce que là, on le voit depuis le début du conflit, depuis le début des frappes, dit un peu tout est son contraire. Est-ce qu'il gagnant de continuer à être flou comme ça, Mark Carney?
Ben, c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire? La marine canadienne n'est pas gigantesque. On n'a pas des navires à n'en plus finir à envoyer là-bas pour éventuellement aider à sécuriser le détroit. Puis rappelons une chose, Max, qu'il ne faut pas oublier, on est dans un processus de négociation commerciale extraordinairement important pour l'économie canadienne avec les Américains. Je pense que le principe qui guide la pensée de Mark Carney en ce moment, c'est « do no harm ». Ne fais pas de tort inutilement. Puis considérant que sa parole, finalement, n'engage pas à grand-chose. Ça ne lui coûte rien de soutenir au niveau verbal l'offensive américaine. Je pense qu'il fait bien de ne pas se mettre à dos des Américains pour rien. Maintenant, si on avait une demande formelle des États-Unis, Mark, voudrais-tu envoyer des troupes canadiennes, des avions canadiens là-bas? Ce serait une autre paire de manches. On n'est pas rendu là pour l'instant.
Pour terminer sur ce dossier-là, Trump qui continue de marteler que l'Iran est à terre, que le conflit sera pas long, même s'attaque aux médias américains qui partagent des informations en provenance de l'Iran en disant « ces médias-là de gauche partagent des fake news en sachant que c'est des fake news. Anyway, j'ai pas besoin de ces médias-là. Moi, je vous le dis, l'Iran est à terre. » Bien que... Puis tu sais, on le sait que... Il y a toute une game stratégique de diffuser un paquet d'informations, puis ça, c'est des deux côtés. Maintenant, à quel point on peut encore croire Donald Trump quand il dit que l'Iran est à terre et que ce conflit-là va se terminer bientôt?
Mais là, on est dans une guerre. Dans une guerre, il y a le brouillard de guerre, puis des deux côtés, on a intérêt à faire croire à tout le monde qu'on gagne. Donald Trump a d'autant plus intérêt à faire croire aux gens qu'il gagne parce qu'il l'a choisi, cette guerre-là. Il a choisi d'engager les États-Unis dans un conflit majeur en Iran. Le grand danger ici, ça, c'est l'élément qu'on peut retenir de ce conflit-là. On a longtemps pensé que le grave problème que pouvait poser l'Iran, c'était une bombe nucléaire. Parce qu'une bombe nucléaire, c'est quoi? C'est un droit de veto sur ce qu'on peut vous faire. La raison, par exemple, pour laquelle le Pakistan a à peu près jamais été envahi, c'est parce que le Pakistan avait l'arme nucléaire. Les Iraniens ne l'avaient pas. Ce dont on se rend compte en ce moment, c'est que la menace de fermer le détroit d'Hormuz, c'est peut-être aussi un droit de veto aussi dangereux pour l'économie mondiale qu'une bombe nucléaire, parce qu'essentiellement, l'Iran prend le monde énergétique mondial en otage en ce moment, et ça leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir, parce que le régime iranien n'a à peu près plus rien à perdre, et les Américains, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent à gagner en ce moment. C'est peut-être la grande leçon de ce conflit-là jusqu'à maintenant.
Autre sujet, Georges Mercier, on continue de suivre là, ce qui se passe du côté de Cuba, même si l'Iran retient énormément d'attention aussitôt qu'on parle d'international. Mais à Cuba, ben, il y a encore des développements. Trump parle d'un accord très bientôt entre Cuba et les États-Unis. Je vais te poser la même question. C'est encore des propos de Donald Trump. À quel point on peut croire ce qu'il dit?
D'abord, il va chercher des victoires. En relation internationale, si l'Iran, ça ne fonctionne pas, il va vouloir une victoire quelque part. Donc, on nous dit un accord prochainement. On ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord-là. On ne sait pas ce qu'on demande du côté de la Maison-Blanche à la Havane. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Chose certaine, c'est beaucoup plus facile pour les Américains de contraindre le régime à Cuba que ce ne l'est de contraindre le régime des Mollahs en Iran. Ils sont plus proches géographiquement. Et les Américains ont réussi ce qu'ils voulaient faire à Cuba en ce moment, c'est-à-dire couper les apports énergétiques pour amener le régime cubain à la table de négociation. Il y aurait des pourparlers entre Marco Rubio et le régime cubain. Ça dépendra de ce qu'on leur demande, si le régime est prêt à accepter ça.
Il y a des citoyens du côté de Cuba qui ont attaqué le siège social du Parti communiste en fin de semaine. J'ai vu que ça a fait un peu la manchette jusqu'ici au Québec. Puis tu sais, je me suis posé la question, c'est-tu vraiment une grosse nouvelle ou c'est quelque chose qui arrive de temps en temps? Tu sais, je pense qu'il y a eu 5 arrestations, c'est loin d'être majeur. C'est-tu une nouvelle importante ou bien si c'est juste que là, le contexte fait qu'on en parle, mais que c'est pas si important que ça?
En fait, c'est peut-être significatif dans la mesure où à Cuba, le régime est très, très bon pour réprimer sa population. Puis il n'y avait pas jusqu'à maintenant de mouvement de masse vraiment organisé pour s'attaquer au régime. Là, lorsqu'on s'en va brûler le siège social du Parti communiste, ça montre que chez certains Cubains, au moins, pas la majorité pour l'instant, mais chez certains, on retrouve le courage de faire des actions plus violentes, plus contraignantes pour le régime. Ça indique peut-être, que je mets un immense peut-être, que la grogne populaire atteint un point à Cuba où le régime cubain n'aura pas le choix de donner quelque chose pour contenir le problème, pour se réapprovisionner en énergie et pour éventuellement envisager une sortie de crise.
Georges Mercier, analyste politique. Merci beaucoup, toujours un plaisir.
Merci, Max. Bonne journée.
Salut, à la prochaine. Au retour de la pause, on reçoit le député de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard. Il est leader parlementaire de QS. Et aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de M. Clich-Rivard parce qu'il souhaite que l'Assemblée nationale s'attaque à l'encadrement de la vente et de la distribution de boissons énergisantes aux mineurs. Je pense que là-dessus, on a beau pas être d'accord surtout avec Québec solidaire, moi là-dessus, je trouve qu'il tient un point intéressant, surtout quand on sait que l'Assemblée nationale du Québec avait commandé un rapport d'experts il y a plusieurs années de ça, qu'on a reçu le rapport, qu'on a reçu les recommandations, puis qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Absolument rien. Le gouvernement commande le rapport, reçoit le rapport, les recommandations, on tablette ça, puis on n'y touche pas. Puis oui, là, on parle de cette situation-là pour les boissons énergisantes. J'ai comme l'impression que ça arrive souvent, ça, qu'on commande un rapport pour dire qu'on a commandé un rapport, puis qu'après ça, quand ce rapport-là nous donne des pistes de solutions à apporter, ben on fait comme si ça n'existait pas, puis qu'on n'avait jamais vu ça passer. Bref, discussion qui s'en vient dans quelques minutes avec Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire.